France Inter.
Un étrange chaînon manquant entre Creedence Clearwater Revival et Boney M. Un tube de 1972 qui rappellera sûrement d'excellents souvenirs de discothèque aux vétérans qui nous écoutent ce soir sur Inter. La chanson s'appelait The Witch Queen of New Orleans, hein, la reine sorcière de la Nouvelle-Orléans, et le groupe s'appelait Redbone. À l'époque, alors, tout le monde ou presque dansait là-dessus. Alors pourquoi sortir ce soir ce vieil élixir de derrière les fagots ? Eh bien parce que, comme je vous le disais hier soir, la sortie prochaine d'un documentaire consacré à l'influence souvent occulté des Indiens d'Amérique sur l'histoire du rock m'a donné envie de partir un peu à l'aventure, armé de ma baguette de sourcier. Alors je vous en ai parlé hier, ce film s'appelle Rumble, The Indians That Rocked the World, hein, Rumble, les Indiens qui ont secoué le monde. Il a obtenu un prix important au festival de Sundance dans le Colorado, où il a passionné le public comme il n'y a pas si longtemps le documentaire consacré au musicien oublié de Détroit, Rodriguez. Alors, qu'est-ce qui est proprement amérindien dans le rock en général? Alors, c'est très difficile de répondre. Une trace, une présence, des rythmes qui dépassent évidemment de très loin l'appartenance ethnique des musiciens. Beaucoup de musiciens ont invoqué cet esprit dans leur musique, on l'a entendu hier, ça allait de Iggy Pop avec les Stooges, à l'éphémère chanteur anglais Gary Glitter, dont le tube de 72, à la même année que Redbone, singeait de façon très convaincante un chant tribal amérindien et s'appelait tout bêtement Rock'n'Roll. Mais enfin, si on prend les choses au pied de la lettre, il y a des musiciens américains qui ont revendiqué leur sang amérindien. Alors, on ne le souligne pas souvent, mais c'était le cas de Jimi Hendrix, dont la grand-mère paternelle avait des ascendants indiens Cherokee. Il se trouve que Hendrix y a rendu hommage, hein, dans les parures qu'il arborait. Hein, il faut savoir, on le sait pas, mais qui dessinait, enfin certains ne le savent pas, qui dessinait et cousait lui-même ses vêtements. Donc c'était clairement une allusion aux parures amérindiennes. Et puis il a aussi chanté une chanson qui s'appelle Castles Made of Sand, ou Château de Sable, où, voilà, où il parle de ses ancêtres. Alors, il se trouve que Hendrix a encouragé le groupe qu'on vient d'entendre, Redbone, à revendiquer son identité amérindienne, selon le témoignage de son batteur Pete DePoe. Pete DePoe était un pur Cheyenne dont le nom d'origine signifiait « dernier ours marchand ». Eh oui. Alors les deux fondateurs de Redbone, les frères Lolly et Pat Vasquez, dit Lolly et Pat Vegas, étaient quant à eux des sans-mêlés, hein, moitié mexicain, moitié amérindien. Et d'ailleurs le nom qu'ils avaient choisi, Redbone, est une déformation d'un mot cajun, rébon, qui signifie métis. Les frères Vegas avaient grandi entre San Francisco et Los Angeles dans de pauvres campements pour réfugiés. Bon, aujourd'hui on dit des migrants, je sais pas trop pourquoi on a changé de mot parce que finalement c'est la même réalité. Les frères Vegas étaient d'excellents musiciens, ils avaient d'ailleurs eu un grand succès en tant qu'accompagnateurs à Los Angeles, notamment auprès d'Elvis, enfin de plein d'autres. Alors à ses tout débuts, la musique de Redbone s'assimilait à ce qu'on a pu appeler le swamp rock, autrement dit le rock des marais, hein, des marais louisianais en l'occurrence. Un rock marqué par un blues primitif et des rythmes hypnotiques inspirés de cérémonies animistes. Alors les débuts de Creedence Clearwater Revival, je vous en parlais tout à l'heure, un groupe californien, hein, notez bien, ont été profondément marqués par ce rock des marais. Eh bien c'est le cas du premier album de Redbone, carrément un double album vinyle, hein, bien sûr, sorti en 1970. C'est vraiment excellent. Alors bien sûr, il y a un coin d'Amérique où l'influence amérindienne a été et reste immense, c'est la Nouvelle-Orléans et sa région. Alors vous savez sûrement, pour le carnaval de Mardi Gras, la population de la Nouvelle-Orléans défile là-bas sous les couleurs de différentes tribus, parées de costumes extravagants, inspirées des tenues de cérémonies amérindiennes. À la Nouvelle-Orléans est né à la fin des années 60 un groupe qui s'appelait les Meters, qui a été formé par le pianiste et organiste Art Neville, qui est l'aîné d'une illustre famille de musiciens. Et sous la direction d'un musicien exceptionnel qu'on a perdu récemment, Alan Toussaint, les Meters ont créé un rythme moite et syncopé qui était également marqué par les rythmes de Cuba et de la Jamaïque, dont on captait à la Nouvelle-Orléans la production musicale sur des stations de radio. Ces cuivres toujours sobre et resserré, ces giclées de guitare percussive en rafale, ce piano qui a toujours l'air comme posé de travers dans un élégant déséquilibre, ce son particulier des Meters a captivé entre autres les Rolling Stones et David Bowie au milieu des années 70. Voici les Meters en 1975 dans Fire on the Bayou. We'll be right back.
Pedro.
Ice Age, l'âge de glace, un titre signé par un des plus grand musicien natif de la Nouvelle-Orléans, Dr. John, hein, toujours en activité à 75 ans passés. C'est un titre qui extrait d'un album récent, hein, 2012, qui s'appelle Locked Down, qui a été réalisé par le chanteur et guitariste des Black Keys, Dan Auerbach, et que je vous recommande chaudement parce qu'il est franchement exceptionnel. Mac Rabanack, dit Dr. John, a été à la fin des années 60 l'inventeur d'un style complètement à part, une sorte une sorte de vaudou psychédélique où se mêlaient rhythm and blues, jazz et funk. Il animait des spectacles extravagants vêtu d'un costume de carnaval de son invention, une rangée de petits os en pendentif, de multiples décorations amérindiennes dans les cheveux, enfin tout était amérindien dans son allure, à part peut-être son chapeau haute forme complètement défoncé. Dans le documentaire Rumble, qui m'a inspiré la programmation de la semaine sur Inter, et consacré, je le rappelle, à la présence amérindienne dans l'histoire du rock, les auteurs célèbrent la mémoire d'un musicien qui nous a quittés il y a une trentaine d'années déjà, un guitariste très réputé, mais enfin pas connu du grand public, qui s'appelait Jesse Ed Davis. Alors les maniaques dans mon genre, qui lisaient tous les noms mentionnés sur les pochettes de disques, se souviennent sûrement de Jesse Ed Davis, parce qu'il apparaissait sur les pochettes des albums de George Harrison, John Lennon, mais aussi Rod Stewart et Bob Dylan. Il se trouve que Jesse Ed Davis était un pur amérindien, Kiowa par sa mère et Comanche par son père. Il avait grandi dans l'Oklahoma, où se trouvaient de vastes réserves, Choctaw, Chickasaw et Cherokee, entre autres. Jesse Ed Davis avait commencé sa carrière à la fin des années 60 auprès d'un musicien d'exception, le New-Yorkais Taj Mahal, qui est un guitariste capable de maîtriser une vingtaine d'autres instruments à cordes, un des premiers découvreurs du reggae notamment. C'est donc auprès de lui que Jesse Ed Davis a fait ses classes. Alors, parfois on le présentait comme Jesse Davis. Et pourquoi était-il tellement sollicité? Parce que c'était un as de la guitare slide. Vous savez, c'est la guitare blues qu'on joue en faisant glisser un tube de métal fixé généralement sur l'annulaire de la main gauche, hein, pour les droitiers bien sûr, et qui glisse sur le manche. Voilà, ça fait slide. Ce qui explique pourquoi Jesse Ed Davis a été tellement sollicité comme accompagnateur. Et quand il a enregistré son premier album solo en tant que leader, c'était en 1970, eh ben, il a eu aucun mal à convaincre de nombreux musiciens amis qu'il admirait de le rejoindre. Parmi eux, il y avait le pianiste Leon Russell, qu'on a perdu récemment. On le connaissait surtout à l'époque comme accompagnateur de Joe Cocker. Graham Parsons, un grand ami de Keith Richards, qui est le premier à avoir rapproché musique country et rock psychédélique. Et puis aussi Eric Clapton, qu'on va entendre jouer avec lui dans ce titre qui s'appelle Ouachita Love Child, enfant de l'amour de Ouachita. Alors Ouachita, il faut savoir, c'est un nom qui résonne de façon tragique aux oreilles des Amérindiens. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est situé dans l'ouest de l'Oklahoma, où en 1868, les troupes du général Custer ont massacré plus d'une centaine d'Indiens Cheyennes. Back down.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Train, Train, un titre au son typique du rock américain sudiste des années 70. Il est signé par un groupe qui s'appelle Blackfoot et on peut l'entendre dans un album de 1979 qui s'appelle Blackfoot Strikes. Alors l'histoire de ce groupe est évidemment liée au thème de ce Very Good Trip sur Inter, hein, soit la présence des Amérindiens dans l'histoire du rock. Alors déjà, le nom du groupe Blackfoot est tiré de celui de la tribu des Blackfeet, hein, les pieds noirs, qui avaient fait une alliance avec les Indiens Sioux. Le chanteur Ricky Madlock, lui-même fils de Sioux, avait appris la musique auprès de son père, un certain Shorty Madlock, dans la ville de Jacksonville. Alors Jacksonville, c'est une importante ville portuaire située au nord-est de la Floride, juste aux confins de la Géorgie, par où étaient passés les frères Duane et Greg Allman, fondateurs du fameux Allman Brothers Band, un des piliers du rock sudiste. Bref, Ricky avait appris la musique littéralement sur les genoux de son père Shorty, qui, dans les années 50, animait une émission de country et de blues pour une télévision locale en Floride. Alors déjà, Ricky jouait remarquablement du banjo d'enfant. Après, ça a été évidemment la guitare électrique. Et quant à Shorty Medlock, le père, il a longtemps accompagné Blackfoot, le groupe de son fils, accompagné, enfin pas sur scène, mais enfin, il a servi de guide spirituel au groupe. C'est aussi lui qu'on entend jouer de l'harmonica blues au début de cette chanson Train Train que vous avez entendu. C'est lui qui imitait là, le bruit du train approchant d'une manière assez hallucinante. Alors, je voudrais à présent vous parler d'un autre musicien Sioux qui lui a été révélé à une période plus tardive et pour de tout autre raison. John Trudell, c'est son nom, ça s'écrit T-R-U-D-E-2-L, avait grandi, lui, dans une réserve de Sioux Santee, dans la célèbre région des Collines Noires, qui se trouve dans le nord-ouest du Nebraska. Trudell avait, était pas un pur amérindien, il avait aussi du sang mexicain. Et il s'était fait connaître en 1969, assez jeune, à l'âge de 22 ans, pour des raisons qui n'avaient rien de musical, puisqu'il était, dans ces années-là, le porte-parole du mouvement des Indians of All Tribes, hein, indiens de toute tribu, qui avait campé pendant 2 ans autour du pénitencier de Alcatraz, cette île hein, qui est située dans la baie de San Francisco, pour faire valoir les droits à cette terre des Amérindiens. Trudell, un révolté, a longtemps mené une vie d'errance, vivant d'expédients et de petits boulots et consacrant toute son énergie à lutter pour les droits de son peuple et à diffuser ses propres écrits, poèmes et textes revendicatifs. Il a connu beaucoup de vicissitudes avant de rencontrer tardivement, vers le milieu des années 80, le guitariste Jesse Ed Davis, amérindien comme lui, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Celui-ci lui a alors proposé une collaboration appelée à révéler enfin au plus grand nombre le talent de John Trudell. Mais ça allait prendre du temps parce que, dans un premier temps, une cassette de cet enregistrement inachevé encore, enfin une maquette si vous préférez, qui s'appelait déjà AKA Graffiti Man, c'est-à-dire also known as, également connu sous le nom de Graffiti Man, parvient en 1986 aux oreilles de qui ? Eh bien de Bob Dylan. Et Bob Dylan, absolument enthousiasmé, diffuse cette maquette inachevée telle qu'elle en première partie de ses concerts. Hélas, Jesse Ed Davis meurt en 1988 d'une overdose avant que l'album soit achevé et il faudra à John Trudell pas moins de 4 années pour terminer et diffuser auprès d'un plus large public cet album. Alors beaucoup d'admirateurs l'ont soutenu, aidé, secouru, parmi eux le musicien californien Jackson Browne, ainsi que Billy Gibbons de ZZ Top et Peter Garrett du groupe australien Midnight Oil, grands admirateurs de John Trudell. Et finalement, c'est un label français, Natto, orienté vers le jazz et animé par Jean Rochard, qui a permis à John Trudell de se faire connaître en France et en Europe. Bombs over Baghdad, des bombes sur Bagdad, c'est une évocation de la première guerre du Golfe en 1991, c'est dû à John Trudell, dont on ressuscite ce soir la voix sur Inter.
Bombs over Baghdad. and oil cocktails. Their violence works, it hardly ever fails. When blind man can't see, he believes blind. Blind obedience is the child of mindless mind. New world order is an old world lie. Fighting for peace, see how they die. Dragging in God as they turn violent. God says nothing, he just remains silent. Stop madmen from running loose. Mother Earth woman can't take the abuse. Living right now is living for tomorrow. Time is saying there's no more time to borrow. Vampires drinking blood and oil cocktails. Their violence works, it hardly ever fails. Bombs over Baghdad, dancers of death. Murder in the air, with the next breath. Macho queen selling war makers' toys. Raining destruction. Of death.
Bombs over Baghdad.
Dancers of death.
Bombs over Baghdad.
Dancers of death.
Bombs over Baghdad.
Dancers of death.
Bombs over Baghdad. Bombs over Baghdad. Bombs over Baghdad. Bombs over Baghdad. Broken laws, broken bodies, broken bones.
Non, je ne vais pas vous révéler ce soir que Bob Dylan est en fait un Amérindien de naissance. Non, il ne l'est pas du tout. Cela dit, comme beaucoup d'artistes américains, Dylan s'est senti déchiré par l'histoire violente du pays dont il est issu, les États-Unis, et il a su se projeter par son imagination de poète dans les souffrances qu'ont endurées les Indiens d'Amérique. Il a évoqué les massacres d'Indiens de la seconde moitié du 19e siècle dans le célèbre « With God on Our Side », une de ses chansons les plus émouvantes de la première moitié des années 60. On en entendra d'ailleurs une magnifique version dans l'émission de demain. La chanson qu'on vient d'entendre, « Everything is Broken », est bien plus tardive puisqu'elle remonte à 1989 et un album de Dylan qui s'appelle « Oh Mercy ». Un album qu'a supervisé pour Dylan un musicien canadien à moitié québécois, Daniel Lanois, qui a suivi un parcours très surprenant qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Daniel Lanois s'était lancé très jeune à la fin des années 60 comme chanteur et guitariste de folk dans sa banlieue de Hamilton, c'est autour de Toronto, et il a longtemps travaillé localement comme ingénieur du son, enregistrant des groupes du coin comme Martha and the Muffins. Mais l'inattendu, c'est qu'il s'est fait connaître dans un tout autre domaine, le domaine de la musique dite ambient, d'ambiance, au sens d'atmosphère sonore particulière, puisqu'il est devenu, au début des années 80, le collaborateur privilégié de l'anglais Brian Eno, le musicien qui était le premier à théoriser cette façon particulière de superposer des couches sonores lointaines où un voile mystérieux semble nimber les sons et les rythmes. Daniel Lanois, toujours avec Eno, a collaboré dans les années 80 avec le groupe U2, notamment pour le célèbre album The Joshua Tree, ainsi qu'avec Peter Gabriel. Et puis, il a eu une révélation. Il s'est rendu à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer et réaliser un album avec les frères Neville, les Neville Brothers, des Martiniquais d'origine, dans le sillage du groupe de leur frère aîné Art Neville, les Meters, qui ont mêlé de façon admirable toutes les musiques de la Nouvelle-Orléans, du jazz à la country. Et Dylan a été subjugué par la version de deux de ses chansons qu'ont enregistré les Neville Brothers sous la direction de Lanois. Il a été tellement subjugué qu'il a proposé à Lanois une collaboration et que bien sûr celui-ci n'a pas pu refuser. C'est ainsi qu'est né Oh Mercy en 1989, un des derniers albums de Bob Dylan à avoir marqué l'histoire du rock hors le cercle de ses admirateurs inconditionnels. Les meilleurs musiciens néo-orléanais ont accompagné Dylan dans ce disque, et ce qui donne à sa musique ce groove particulier où on peut sentir une empreinte amérindienne. Faut pas oublier que les Cadiens ou Cajuns louisianais, dont la présence est très marquée à la Nouvelle-Orléans, sont les descendants des Acadiens. Ben oui, vous savez, les Acadiens, ce peuple français jadis établi au nord-est de l'Amérique du Nord, qui s'était allié et mêlé à des tribus amérindiennes pour lutter contre les Anglais au Canada et dont une part importante au milieu du 18e siècle avait été déportée massivement et s'était retrouvée en Louisiane. Voici maintenant une autre musicienne amérindienne, bien oubliée aujourd'hui, qui a pourtant marqué en profondeur le début des années 70 avec sa chanson « Soldier Blue »,« Soldat Bleu ». C'était la chanson-titre d'un film de 1970 évoquant un massacre de Cheyenne commis en 1864. Buffy St. Mary, c'est son nom, était une enfant adoptée qui avait grandi dans une réserve d'Indiens Cree. Les Cree, ils étaient établis au sud-est du Saskatchewan, c'est pas loin de la frontière avec le Dakota du Nord, et Buffy St. Mary a écrit pas mal de chansons assez célèbres, notamment un classique qui a été popularisé par le chanteur écossais Donovan, The Universal Soldier. Elle a également collaboré avec Ry Cooder, Jesse Ed Davis et également avec Neil Young. Cette chanson que je vous propose, Better Find Out For Yourself, est extraite d'un album très curieux signé en 1969 par Buffy St. Mary et qui s'appelle Illuminations, où elle s'est révélée une pionnière de l'électronique au cœur de la musique folk, collaborant avec un musicien qui jouait sur un synthétiseur modulaire. Ce soir, c'est sur Inter.
Spanked and made to cry. Every young woman that's ever been loved and shaken and made to sigh. Every young woman that's ever been loved has told me true. Take his heart and run away as he would do to you. Every young man I've ever seen been mean as he could be. Every
chanson de Patti Smith qui n'est pas souvent diffusée à la radio. C'est pourtant une des plus belles. Pardon de l'écourter, mais il faut tout passer ce soir. C'est une chanson qui figure dans son troisième album Easter, qui est paru en 79, qui est surtout connue pour la chanson qu'elle a coécrite avec Bruce Springsteen, Because the Night. Ghost Dance, danse de l'esprit ou des esprits plutôt que du fantôme, hein, il vaudrait mieux traduire comme ça. Ça désignait plus qu'une danse pratiquée en rond par les tribus amérindiennes, mais une croyance, une invocation des mânes des défunts afin qu'ils reviennent sur terre et aident les vivants à chasser les colons blancs. Patti Smith s'est toujours projetée dans ses invocations rituelles et incantations chamaniques qui constituent le noyau de son art poétique dont le rock et le folk sont finalement des expressions parmi d'autres. À présent, une voix rare et inoubliable, celle de Karen Dalton, qui fut une étoile filante de la chanson folk américaine des années 60. Elle avait grandi dans une famille pauvre de l'Oklahoma, un état qui abritait de nombreuses réserves amérindiennes. Son père, Dalton, était irlandais, mais sa mère était une indienne Cherokee. Bob Dylan l'avait croisée à ses débuts dans le Lower East Side new-yorkais, le quartier du sud-est de New York, où se concentraient les petits clubs de folk. Et voici comment il l'a décrite dans son livre de mémoire intitulé Chronique volume 1, publié en France en 2005. Je cite « Cette jeune femme à la page, dégingandée et sensuelle, était ma chanteuse préférée. Elle chantait comme Billie Holiday et jouait de la guitare comme Jimmy Reed. » Fin de citation. Jimmy Reed, un guitariste de blues qui fut un des plus populaires de Chicago dans les années 50 avec B.B. King. Karen Dalton avait quelque chose de magique dans sa voix. Oui, mais elle était vraiment sauvage. Il a fallu employer la ruse pour la tirer dans un studio d'enregistrement, ce qui explique que son œuvre enregistrée a été très maigre. Instable, accrochée à l'héroïne, elle a connu un destin tragique, finissant sans domicile fixe dans les rues de New York au début des années 90, atteinte du sida. Cette chanson, Same Old Man, est extraite d'un album de Karen Dalton sorti en 71, In My Own Time. Same Old Man, c'était la voix venu d'un autre temps, de Karen Dalton en 1971. L'album s'appelait In My Own Time. Karen Dalton qui clôt le programme de ce soir pour une raison qu'on ignore souvent, c'est qu'elle avait du sang amérindien. Elle était Cherokee par sa mère. Voilà, il me reste à remercier chaleureusement Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Arnaud Caillet présent à la technique ce soir, Zora Ben Smiley qui s'occupe admirablement comme toujours du site internet, Romain Couturier qui trouve tout au dernier moment à la discothèque de Radio France. Et une précision, il y aura un petit changement pour jeudi soir parce que exceptionnellement on rendra hommage à un musicien qui vient de disparaître, c'est Walter Becker, le guitariste de Steely Dan, un des meilleurs groupes de rock californien, même s'ils étaient new-yorkais, on les assimile au rock californien. Enfin, vous entendrez ça, si vous connaissez pas ça, vous serez heureux, je l'espère. Alors, vous savez, Laurent Goumard, je vous envie,
je
mais
sais.
Comme une bête.
Vous êtes déjà passé au bureau pour nous le dire.
Je vous
donc
hais,
c'est que c'est
je
vrai.
Vous hais ce soir.
Venez, ah ben,
venez,
général,
venez nous retrouver mais... avec
oui.
les Sparks.
Voilà,
Sparks
oui, parce que c'est vous qui diffusez les Sparks.
Exactement, trois titres en live ouais. qui sont avec nous
bon.
Ce soir.
Non, mais tant mieux pour les auditeurs.
Voilà,
mais...
puis on parlera d'un autre projet tout aussi barré, c'est Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, la comédie musicale heavy metal de Bruno Dumont sur l'enfance de Jeanne d'Arc. Et puis il y aura le Tac au Tac, enfin il y aura tout, bah, c'est le nouveau rendez-vous.
Mais toutes vos attractions, Laurent.
Exactement, allez. Mes attractions, voilà. Alors ça.
Allez, à tout de suite.
Merci, à tout de suite.